Vous êtes avec SBS French.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio SBS. Grégory Pless pour vous servir, c'est parti pour une heure d'émission en français. Aujourd'hui, on va parler de liens culturels entre l'Asie et l'Afrique avec deux universitaires tunisiens qui ont récemment participé à un colloque visant à nouer des liens sur la question du patrimoine culturel entre la Tunisie d'une part et la Malaisie d'autre part. On va aussi se plonger dans l'un des combats les plus importants de la cause aborigène en Australie, celui de la restitution des terres. L'historien Romain Fati va nous éclairer sur ce sujet, un sujet qui trouve sa source dans les premiers instants de la colonisation de l'Australie par les Britanniques. Et puis, on n'oublie pas non plus les amateurs de sport. Jean-Noël Ducasse va nous faire un point complet. Mais d'abord, place à l'actu, c'est l'heure du journal. Les principaux titres de ce jeudi 7 octobre 2021. 70% de la population adulte est désormais vaccinée en Nouvelle-Galles du Sud, une progression qui a poussé le nouveau leader de l'État, Dominique Perrottet, à annoncer quelques changements concernant le plan de déconfinement. L'ambassadeur de France est en route vers Canberra. Il revient donc après avoir été rappelé à Paris il y a quelques semaines de cela, suite à la rupture du contrat par l'Australie, du contrat portant sur le programme des futurs sous-marins. Et puis au Vatican, le pape François a fait part de la honte qu'il ressentait suite à l'apparition en France d'un rapport sur les abus sexuels dans l'Église qui fait état de 330 000 victimes mineures depuis les années 50. Et c'est un cap important qui vient d'être franchi dans la lutte contre la pandémie de coronavirus. La Nouvelle-Galles du Sud compte désormais 70% de sa population adulte complètement vaccinée. Un seuil qui va se traduire dès la semaine prochaine par l'allègement de certaines restrictions, en tout cas pour les personnes vaccinées. Et ce alors que Sydney, quasiment toute la Nouvelle-Galles du Sud également, est confinée depuis 15 semaines. Le territoire de la capitale australienne vient aussi pour sa part d'atteindre un seuil important. 95% de primo-vaccinés au sein de la population âgée de plus de 12 ans. Et l'État du Victoria, qui recense aujourd'hui plus de 1600 nouveaux cas, n'est pas loin avec près de 85% de primo-vaccinés. En revanche, c'est moins bien au Queensland et en Australie occidentale. Il s'agit des deux seuls États qui, à ce jour, n'ont pas encore passé le seuil de 50% de la population ayant reçu les deux doses de vaccin. On revient à la Nouvelle-Galles du Sud. Dominique Perrottet a donc annoncé ce matin quelques changements au plan de déconfinement qui avait été élaboré par sa prédécesseure. Dès lundi 11 octobre, les personnes vaccinées pourront recevoir chez elles jusqu'à 10 adultes et à l'extérieur, les rassemblements pourront aller jusqu'à 30 personnes. Par ailleurs, les piscines couvertes vont rouvrir et on pourra avoir jusqu'à 100 personnes présentes aux mariages et aux enterrements. Enfin, quand le cap des 80% de vaccinés sera franchi, le port du masque au bureau ne sera plus obligatoire. Ces modifications, Dominique Perrottet a assuré les avoir décidées en concertation avec la médecin-chef de l'État, le docteur Kerry Chant.
Are these changes today are measured, sensible, and ensure that we open up in a very safe way? I met yesterday for some time with Dr. Chant and with Minister Hazard. We ran through a whole range of issues. It's also an economic crisis as well. And as the new Premier, well, we're the elected officials and styles might be different and changes get made. But in my view, we had a very constructive discussion last night. And as the Health Minister has said, these changes are supported by the health team.
Enfin, sur ce déconfinement en cours en Nouvelle-Galles du Sud, précisons également que la possibilité de se rendre dans les parties rurales de l'État, ce sera autorisé seulement quand le cap de 80% de la population vaccinée sera atteint, un cap qui devrait lui aussi être franchi très prochainement. En tout cas, ce déconfinement qui se rapproche, il donne également de l'espoir au trésorier fédéral Josh Frydenberg, qui ne doute pas que l'économie australienne va très vite rebondir sur Channel 7. Il a estimé que le variant Delta a non pas fait dérailler la relance de l'économie, qu'il l'a simplement ralenti.
To see New South Wales open from Monday and people get back to work, and obviously this is the reward that people are getting for getting the jab. No jab, no joy, but if you've had the jab, as so many people in New South Wales have, indeed across Australia, then you'll start to get your freedoms back, and I think that's really important. But as for the economy, we're confident that it will bounce back, as it has done before, when we've gone into lockdowns previously.
Josh Frydenberg a également annoncé un durcissement des conditions d'accès à l'emprunt, une décision qu'il estime appropriée à un moment où les taux d'intérêt très bas provoquent une hausse significative des prix de l'immobilier. L'autorité prudentielle australienne a récemment demandé aux banques de relever leur niveau d'exigence vis-à-vis des emprunteurs et de leur capacité de remboursement. Jean-Pierre Thébault, l'ambassadeur de France en Australie, va revenir à Canberra. Il avait été rappelé à Paris il y a environ 3 semaines par le gouvernement qui avait ainsi souhaité marquer sa colère et même sa fureur suite à l'annonce faite par Scott Morrison de dénoncer le contrat portant sur l'acquisition de 12 sous-marins auprès du français Naval Group et de s'engager militairement plus avant encore avec les États-Unis et la Grande-Bretagne dans le cadre de cette alliance qu'on appelle AUKUS. C'est le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, qui l'a annoncé hier lors d'une commission parlementaire. Une annonce qui peut paraître au passage surprenante dans la mesure où, à Paris, qu'il s'agisse d'Emmanuel Macron comme des autres membres du gouvernement, personne pour l'instant n'accepte de dialoguer avec l'Australie. Les coups de fil de Scott Morrison ou des différents ministres sonnent dans le vide. Pourtant, dans le cas des États-Unis, rappelons-le, l'ambassadeur n'est retourné à Washington qu'après une explication franche entre Joe Biden et le président français. Rien de tel entre Emmanuel Macron et Scott Morrison. Mais précisons enfin que ce retour à Canberra de Jean-Pierre Thébault ne signifie pas forcément la fin de la brouille entre Paris et Canberra. Pour s'en rendre compte, il suffit d'ailleurs d'écouter Jean-Yves Le Drian.
J'ai désormais demandé à notre ambassadeur de rentrer à Canberra avec 2 missions. Contribuer à redéfinir les termes de notre relation avec l'Australie à l'avenir. Et cette relation doit tirer toutes les conséquences de la rupture majeure de confiance avec ce gouvernement et défendre fermement nos intérêts dans la mise en œuvre concrète de la décision australienne de mettre fin au programme des futurs sous-marins. Il va sans dire que la remise à plat de nos coopérations bilatérales n'aura pas d'impact sur notre détermination à rester pleinement engagés dans la région Pacifique.
Voilà une intervention du ministre qui était retransmise sur la chaîne parlementaire. On reste en France où le rapport publié mardi sur les abus sexuels dans l'Église continue de susciter de nombreuses réactions à l'international. Le pape François lui-même s'est exprimé mercredi sur ce rapport sauvé du nom de son auteur, un rapport selon lequel 330 000 enfants ont été victimes d'abus et d'agressions sexuelles en France depuis les années 50. Le souverain pontife sur le sujet a fait part de sa honte, Éric Sénanc pour Radio France Internationale.
Hier déjà, le pape faisait part de sa douleur face à cette effroyable réalité de la pédocriminalité dans l'Église de France. Ce matin, en public, le souverain pontife a encore voulu redire toute sa proximité envers les victimes.
Je désire exprimer aux victimes ma tristesse, ma douleur pour le traumatisme qu'elles ont subi et ma honte. Notre honte pour la trop longue incapacité de l'Église à les mettre au centre de ses préoccupations, et je les assure de ma prière.
À 4 reprises, le pape évoque le terme de honte. François a souhaité encourager aussi les responsables de l'Église française dans la période qui s'ouvre désormais pour eux.
J'encourage
les évêques et supérieurs religieux à continuer à faire des efforts afin que de tels drames ne se reproduisent pas.
Pour François, les révélations de la Commission Sauvée sont une épreuve dure mais salutaire. L'évêque de Rome a invité également les catholiques français à assumer leurs responsabilités pour garantir que l'Église soit une maison sûre pour tous. Quatre évêques français de passage à Rome ont prié en privé avec le pape avant cette audience générale. Un moment de prière silencieuse, un temps de prière de conversion pour demander pardon, a commenté l'un d'entre eux, Mgr Gobillard, l'évêque auxiliaire de Lyon. Éric Sénanc, Rome, RFI.
L'Organisation mondiale de la santé a autorisé la mise en circulation du premier vaccin contre le paludisme, la malaria, et il recommande sa distribution aux enfants à travers le continent africain. Tedros Ghebreyesus, le directeur général de l'OMS, espère que ce vaccin permettra de freiner la propagation de cette maladie qu'on attrape généralement en se faisant piquer par un moustique.
I started my career as a malaria researcher and I longed for the day that we would have an effective vaccine against this ancient and terrible disease. And today is that day, an historic day. Today, WHO is recommending the broad use of the world's first malaria vaccine. This recommendation is based on results from an ongoing pilot program in Ghana, Kenya, and Malawi that has reached more than 800,000 children since 2019.
Ce vaccin qui s'appelle Mosquirix est une création du laboratoire GSK, n'est toutefois pas un remède miracle puisque son taux d'efficacité n'est que de 30%. Par ailleurs, cette efficacité, elle s'émousse très rapidement, 4 mois seulement après que ce vaccin ait été administré. Par ailleurs, pour qu'il soit efficace, ce vaccin nécessite 4 doses différentes. Néanmoins, les scientifiques pensent que ce vaccin pourra avoir un impact majeur en Afrique où le paludisme est contracté chaque année par 200 millions de personnes et 400 000 d'entre elles en meurent. Pour finir, on jette un coup d'œil à la météo du jour en Australie. 21 degrés et des nuages aujourd'hui à Perth, 17 à Adélaïde, 16 à Melbourne, 14 à Hobart, 21 et du soleil à Canberra, 30 degrés à Sydney, en revanche, où le soleil est un peu plus timide. 28 degrés à Brisbane, où là aussi le ciel est nuageux. 32 à Cairns et jusqu'à 35 degrés à Darwin, restez à l'ombre. On passe maintenant au magazine des sports. Il est présenté par Jean-Noël Ducasse.
Journal des sports de ce jeudi. Tout d'abord le foot, la Ligue des Nations. Les demi-finales hier, l'Italie à la surprise de plusieurs s'incline face à l'Espagne, 2-1. Ce jeudi, la demi-finale France-Belgique. On écoute la réaction de Didier Deschamps.
C'est un titre. Jusqu'à maintenant, au niveau international, il y avait 2 titres, champion d'Europe et champion du monde. Il y a une compétition en plus. On a tout fait pour se qualifier en allant gagner au Portugal. On a tout fait pour y être, donc maintenant qu'on y est, on fait partie des 4, il y a une place en finale, et puis c'est un titre en plus, après vous le mettrez où vous voulez dans l'échelle, on est déjà en demi-finale. C'est pas le cas dans les 2 autres, que ce soit championnat d'Europe ou Coupe du Monde.
Et maintenant, l'analyse de Naïm Moniol, d'Annie Gasnier et de Patrick Julliard de Radio Foot International.
Ce que j'ai moi comme réflexion sur la Belgique, c'est que c'est une équipe dont on attendait énormément sur la décennie 2010, un peu sur la début 2020, mais je pense que c'est une équipe en fait qui est extrêmement décevante, qui rate compétition après compétition. Et je me dis finalement, est-ce que l'idée
Quand on arrive en demi-finale, est-ce que c'est rater une compétition?
Non, c'est pas rater une compétition, mais faut se rappeler qu'en 2018, ils font quand même partie de ceux qui avaient raté l'Euro 2016.
Ils sont déjà premiers.
Battus par le Pays de Galles en 2016.
Ils perdent en 2016.
Ils sont déjà premiers du classement FIFA et depuis fort longtemps.
Et le Mondial 2018, ça doit déjà être une revanche à l'Euro 2016. Et au final, c'est une équipe, je me dis, est-ce que c'est bien utile? Quand on arrive au terme d'une génération comme les Belges sont en train d'arriver, est-ce que c'est bien utile de tout mettre sur une rivalité, pseudo-rivalité avec la France, finalement, c'est nos copains, les Belges, on invente des rivalités, la vérité c'est que c'est nos copains, c'est le pays le plus proche, on joue tout le temps contre eux.
C'est nos voisins.
Voilà, c'est nos voisins.
Est-ce
que l'idée, pour Martinez, pour le groupe, pour l'équipe, ça serait pas d'essayer d'avoir un rendez-vous avec son destin, de gagner une compétition, même si c'est que la Ligue des Nations et que c'est pas incroyable, est-ce que l'idée, ça serait pas quand même que cette génération qui est magnifique, qui est peut-être une des plus belles que vous ayez jamais eues, ça serait pas de gagner une compétition plutôt que de tout mettre sur une rivalité avec la France pour au final, peut-être derrière, perdre en finale?
L'Espagne jouera donc la finale contre le gagnant du match France-Belgique dimanche. Coupe féminine, on parle de la Ligue des Championnes de l'UEFA avec Lyon qui a battu le BK Häcken, le club suédois, mardi, 3-0. Et hier, les Parisiennes du Paris Saint-Germain ont battu les Islandaises du Breiðablik 2-0. Le racisme au cœur du foot en Italie, à Florence, dimanche, la Fédération italienne de foot a ouvert une enquête. Précision de Hugo Moissonnier pour RFI.
Ces personnes doivent être identifiées et tenues à l'écart des stades, pour toujours. Sur Instagram, Khalidou Koulibaly ne mâche pas ses mots. La photo qui accompagne ce message montre le lion de la Teranga en colère, pointant du doigt les tribunes. À l'instar de deux de ses coéquipiers, le Camerounais Zambo Anguissa et le Nigérian Victor Osimhen, le rock sénégalais aurait été victime d'insultes racistes proférées par des spectateurs à Florence ce dimanche. Cela fait 7 ans que le défenseur joue en Italie. Il ne découvre évidemment pas le problème du racisme dans ce pays. Il avait déjà été pris à partie à Milan lors d'un match contre l'Inter en 2018. Récemment, le Français Tiemoué Bakayoko, qui porte la tunique du Milan AC, se plaignait lui aussi d'avoir été visé par des supporters adverses, ceux de la Lazio de Rome. Ces derniers auraient également insulté l'Ivoirien Franck Kessié. Concernant les incidents de ce dimanche à Florence, le parquet de la Fédération Italienne de Football a annoncé lundi l'ouverture d'une enquête. La Fédération Italienne qui a compté au milieu des années 2010 comme dirigeant un certain Carlo Tavecchio. Ce dernier s'était fait remarquer par des sorties racistes juste avant son élection.
Foot en Afrique avec les éliminatoires de la Coupe du Monde de 2022, les 3e et 4e journées des qualifications et ce coup de projecteur sur les écureuils du Bénin qui joueront ce jeudi contre la Tanzanie. Cédric de Oliveira pour RFI.
Premier match à Dar es Salaam donc ce jeudi après une victoire contre Madagascar et un nul à domicile contre la RDC. Le sélectionneur des écureuils Michel Dussuyer veut bien négocier ce moment charnière.
Le temps nous est compté. On sait que c'est une poule qui est difficile parce que c'est une poule qui est homogène où chaque équipe prétend jouer sa carte à fond. Donc c'est le cas, on l'a vu avec le départ aussi dans la compétition de la Tanzanie. Donc voilà, c'est une équipe à prendre évidemment très très au sérieux. Je l'ai dit, c'est une poule difficile et où chaque match sera très important et très disputé. En tout cas, on travaille pour ça et on se bat pour ça. Prendre des points, c'est le plus important. Au final, continuer à être bien positionné pour le sprint final. Ben on fera déjà un bilan après ces deux matchs, avant d'affronter le dernier virage avec la réception de Madagascar et un déplacement en dernier en RDC. Donc pour l'instant, c'est un peu trop tôt pour se projeter sur cette dernière journée. Dans ma ligne de mire, cette double confrontation contre la Tanzanie.
Michel Dussuyer au micro de Félix Soundé Pepéripé. Le Bénin co-leader du groupe J avec la Tanzanie. Les deux équipes s'affronteront donc jeudi. Match retour à Cotonou dimanche prochain.
Serge Aurier, l'Ivoirien, n'est plus avec Tottenham. Il vient de signer avec Villarreal. Précision de Marie-Amélie Motte pour RFI.
Un éléphant au cœur du sous-marin jaune. À Villarreal, Serge Aurier vient relancer une carrière balbutiante après 4 années à Tottenham, marquée par les blessures. Sa seule saison aboutie chez les Spurs restera celle de 2019-2020, 42 matchs sous la houlette de José Mourinho. Mais on n'a jamais réellement revu le puissant latéral droit qui avait fait les beaux jours du PSG. À 28 ans, Serge Aurier va d'ailleurs retrouver son ancien entraîneur à Paris, l'Espagnol Unai Emery. Il va aussi découvrir un nouveau championnat après la France et l'Angleterre, ainsi qu'un club plus familial et plus modeste que Tottenham et Paris. Villarreal, tenant du titre de la Ligue Europa, seulement 11e de Liga pour l'instant, mais qui a obtenu un nul face aux deux géants madrilènes cette saison, le Real et l'Atlético. Aurier évoluera notamment avec le défenseur algérien Aïssa Mendy et l'attaquant sénégalais Boulaïdia. Côté sélection, il n'a jamais perdu sa place de titulaire avec les éléphants de Côte d'Ivoire et il était même capitaine lors du dernier match contre le Cameroun.
Le 6 octobre 2001, une rencontre amicale France-Algérie au Stade de France, arrêtée à la 76e minute après un envahissement du terrain des supporters algériens, alors que l'équipe des Bleus, menée par Zidane, menait 4-1. Cédric de Oliveira, RFI.
Un triste anniversaire pour le football français et algérien. Il y a 20 ans, jour pour jour, les deux pays s'affrontaient au cours d'un duel surnommé match de la réconciliation. Mais la rencontre entre les Fenech et les Bleus de Zinedine Zidane, champion du monde à l'époque, s'était mal terminée. Des sifflets étaient intervenus pendant l'hymne français avant la rencontre et le terrain a été envahi par des centaines de personnes à quelques minutes du terme. Depuis, les deux pays n'ont jamais réussi à organiser à nouveau un match entre leurs deux sélections. Le milieu de terrain Omar Belbey était sur la pelouse du Stade de France ce 6 octobre 2001. Né en France et défendant les couleurs de l'Algérie, il regrette encore aujourd'hui la tournure des événements.
Moi, ce que j'ai ressenti, c'est beaucoup de frustration, quoi. Ça aurait dû être une fête. Et ça a été une catastrophe, quoi. C'était une catastrophe. Il y avait tout pour passer une soirée énorme à tous les niveaux. Quand il y a eu les hymnes, je vous cache pas que j'ai eu honte, quoi. Mm-hmm. J'ai eu honte, tout simplement. J'ai ressenti beaucoup de tristesse qu'on puisse siffler une hymne, quelle qu'elle soit. Je m'imaginais à Alger et entendre, je sais pas, 50 000 Marocains siffler l'hymne algérien, quoi. J'étais pas bien. Et avec les abrutis qui sont rentrés sur le terrain et franchement, j'ai pas compris. Ce match, il m'a marqué, quoi.
Omar Belbey, qui était l'invité de Radio Foot International.
Et puis en mode cyclisme, pour vous dire qu'en ce moment, il y a la Women's Tour qui se déroule en Grande-Bretagne et vous pouvez voir les meilleurs moments sur SBS On Demand et aussi suivez ce podcast à 13h30 en live sur SBS Cycling Central, tous les jours donc jusqu'au 10 octobre prochain avec notre collègue Christophe Mallet et ses invités Kate Bates et Gracie Elvin. Voilà pour le journal des sports de ce jeudi.
Vous écoutez le français sur Radio SBS.
Bonjour à tous, aujourd'hui on va revenir sur un événement qui s'est déroulé la semaine dernière, la restitution par le gouvernement du Queensland de 160 000 hectares de terre à ses propriétaires traditionnels aborigènes, un territoire qui inclut notamment le parc national de Daintree, une forêt tropicale considérée comme la plus ancienne du monde et qui par ailleurs est classée au patrimoine mondial de l'humanité. Alors le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, c'est celui de la restitution des terres aux populations aborigènes. Pour cela, il va falloir faire un peu d'histoire. Nous avons donc contacté Romain Fati, il enseigne à l'université Flinders. Et pour parler de ce sujet, eh bien, il faut revenir aux origines de la colonisation de l'Australie.
Le principe même de la colonisation en Australie a reposé sur la fiction légale de terra nullius, la terre vide ou la terre à personne. Donc le Parlement britannique établit que la terre australienne est vide, qu'elle n'appartient à personne. Donc les Australiens, enfin les Britanniques disent, voilà, la terre australienne est vide, à partir de ce moment-là, ça nous donne l'autorité de pouvoir établir des colonies. Ils savent très bien qu'il y a des aborigènes, mais d'après le système britannique, ce n'est pas une société organisée, et donc cette terre peut leur être prise. Donc ça, c'est très important. Le principe de terra nullius, il fonctionne de 1788, l'arrivée de la première flotte, à 1992. Donc pendant 150 ans d'histoire coloniale, la terre d'Australie appartient au gouvernement des colonies, qui après se fédère en 1901, et donc cette terre-là appartient au Commonwealth of Australia. le gouvernement fédéral.
C'est donc dès les premiers jours de la colonisation que les aborigènes sont spoliés de leurs terres. On ne leur reconnaît d'ailleurs même pas d'existence légale en tant que citoyens à ce moment-là. Un état de fait qui va commencer à évoluer seulement dans les années 60, une période où les mouvements de revendication prennent de l'ampleur et surtout commencent à être entendus.
Il y a toujours eu de la résistance. Sauf que cette résistance prend pied dans le XXe siècle, puisque c'est le moment des décolonisations, puisque c'est le moment du Black Power aux États-Unis. Et donc, dans les années 60, 70 et 80, il y a un réel mouvement aborigène, des peuples aborigènes, parce qu'il y a quand même plus de 500 peuples, qui se met en place et qui dit « Nous voulons notre terre, nous voulons récupérer notre terre ». Mais il n'y a pas de structure légale. Comment vous allez prouver dans un système britannique qui explique qu'avant l'arrivée des colons, la terre n'appartenait à personne, comment vous allez prouver qu'elle vous appartient à vous?
Finalement, c'est au milieu des années 80 qu'entre en jeu Eddie Mabo, un activiste aborigène originaire du Queensland. Il va lancer une action en justice qui, plusieurs années plus tard, lui donnera gain de cause.
Mabo explique que sur les terres du gouvernement du Queensland, sa famille les a occupées depuis des générations, qu'il y avait un système de partage de la terre sur les familles de son île dans le Far North Queensland. Et donc, il emmène ça au tribunal. Le gouvernement de Queensland lui dit hors de question. Et donc, il fait appel et il va à la Cour fédérale australienne à Canberra. Et la Cour dit effectivement, vous avez été en mesure d'établir que depuis des générations, vous vivez sur cette terre. Et donc, moment historique en Australie en 1992, la Cour dit, il y a des droits aux terres. Les aborigènes peuvent avoir des droits aux terres, donc on renie la doctrine de terra nullius. On reconnaît que les aborigènes étaient là avant. Tout le monde le savait, mais maintenant c'est reconnu dans le système légal.
Cette décision de justice historique se traduit l'année suivante en une loi, le Native Title Act, qui aujourd'hui encore régit le processus de restitution des terres. Mais les conditions d'éligibilité sont très restreintes et les preuves à fournir difficiles à apporter.
L'acte dit très clairement que tout ce qui est possédé en privé par les Australiens ne peut pas être rétrocédé. C'est-à-dire que ce que les Blancs, entre guillemets, occupent, c'est terminé. En revanche, le Native Title Act de 93 dit « Là où il y a des Crown Land, donc des terres du gouvernement qui sont vacantes, dans ces cas très précis, si les communautés aborigènes locales peuvent démontrer qu'elles ont un lien ininterrompu avec ces terres depuis la colonisation, alors, et seulement dans ces cas, ils pourront être avoir le Native Title. Donc c'est des cas déjà très très limités. C'est là où la terre n'est pas occupée, là où elle est possédée par le gouvernement, et là où, comble de l'ironie, vous pouvez montrer que vous avez une connexion avec cette terre. Ce n'est pas une civilisation de l'écrit. Comment vous pouvez documenter 150 ans entre la colonisation, même 180 et le moment où il y a les Native Title, que vous avez une connexion ininterrompue? C'est très très compliqué. Il va falloir se baser sur de l'histoire orale, sur de l'archéologie. Il faut des traces. C'est extrêmement compliqué.
L'autre difficulté qui s'ajoute, c'est que parmi les très nombreuses communautés aborigènes qui peuplent l'Australie, le concept de propriété, du moins tel qu'il est entendu dans la civilisation occidentale, n'existait pas forcément avant la colonisation.
C'est la question fondamentale légale qui a été posée à la Cour suprême. Et la réponse, c'est à la fois oui et non. Parce que le case de Mabo a été put forward par les communautés aborigènes parce que précisément, dans ces îles du Far North Queensland, il y avait la conception de propriété privée et donc de délimitation. Et c'est ce que Mabo a pu montrer. Il a fait venir les juges et il leur a montré des pierres en disant, voilà, ça c'est ma parcelle, ça c'est la parcelle de mon beau-frère, ça c'est la parcelle de... Donc en fait, la Cour suprême n'a pu comprendre leur logique que parce qu'elle rentrait dans notre logique de propriété privée. Or, la propriété privée existe dans certaines communautés aborigènes, particulièrement chez les Torres Strait people, mais ce n'est pas le cas d'une grande partie de communautés aborigènes sur la masse continentale australienne.
Il faut aussi préciser que même lorsqu'un groupe aborigène parvient à faire reconnaître ses droits sur un territoire, il n'en devient pas complètement propriétaire.
Native title, vous avez grosso modo quatre gros droits, entre guillemets. On peut vous accorder un de ces quatre droits ou ces quatre droits. Le premier de ces droits, le plus important, c'est de vivre sur l'aire territoriale du Native Title et d'avoir le droit d'y construire des abris, voire même des structures. Ça, c'est le premier de ces droits. Là, dans le cas de la forêt de Daintree, je peux vous assurer que ce droit-là, il va être exclu. Parce que on est dans le cadre de parcs nationaux sur lesquels on n'a pas le droit de construire de choses. Le deuxième de ces droits, qui est généralement le plus commun dans les Native Territories, c'est le droit d'avoir accès à la terre pour, par exemple, y camper ou y faire des cérémonies. Le troisième de ces droits, c'est de rendre visite pour protéger des sites culturels importants et pour pouvoir aller chasser, soit récupérer des médecines naturelles. Et enfin, la quatrième raison qui peut être donnée, c'est de pouvoir enseigner la tradition aborigène et les activités culturelles aborigènes sur ces sites.
Et c'est pourquoi, même si ce système de rétrocession des terres constitue une avancée par rapport à une période où on considérait que les aborigènes n'avaient aucun droit, il reste pour Romain Fati un moyen pour les descendants des colonisateurs de garder le pouvoir.
Le but des Native Title, c'est de protéger le système occidental de la propriété privée. Le but, c'est pas de donner et d'être sympa. Le but, c'est de délimiter la manière dont les aborigènes peuvent utiliser leurs propres terres. C'est ça la perversion du système.
Le problème sur cette question insoluble qui se pose, eh bien, c'est qu'en Australie, les colons ne sont jamais repartis.
C'est pas l'Algérie française où un jour, paf, on nous met un coup de pied au derrière et vous restez en Algérie ou vous rentrez en métropole. Les Australiens ne vont pas rentrer en Grande-Bretagne. Ça fait plusieurs générations qu'ils sont nés ici, ils sont Australiens. Donc on est obligé de vivre avec la colonisation. La vraie question, c'est comment on traite les habitants traditionnels de l'Australie.
Et en l'occurrence, la marge de progression est encore immense. Les aborigènes ont une espérance de vie de 10 ans plus courte que le reste de la population. Ils représentent 30% de la population carcérale pour seulement 3% de la population. Et plus généralement, ils sont beaucoup plus exposés au chômage, aux maladies, à la déscolarisation et à la pauvreté.
Si tu ne me retiens pas, je te mangerai cru si tu ne me retiens pas. Ou Alexandrie, Alexandra, Alexandrie, ce soir je danse dans tes draps. Je te mangerai cru si tu ne me retiens pas.
On vient d'écouter Alexandrie Alexandra, l'un des plus célèbres tubes du chanteur Claude François. Vous êtes sur SBS et l'émission en français. Il est 13h46. On arrive maintenant dans la dernière partie de notre émission. On va retrouver Bertrand Tungandamé. Il s'est entretenu avec le docteur Majdi Fallé et le docteur Malek Latawi. Ces deux universitaires tunisiens nous parlent de Match 2021, c'est un colloque qui s'est déroulé le mois dernier et qui vise à partager le savoir des experts du patrimoine culturel en Tunisie et en Malaisie. Un lien donc entre deux continents à travers la culture. On écoute.
Vous êtes avec SBS French.
J'ai le plaisir d'accueillir le docteur Majdi Fallé, chercheur enseignant et représentant du réseau Engage Hub Tunisie pour le patrimoine humanitaire basé en Grande-Bretagne. Et le docteur Malek Latawi, professeur à l'école polytechnique de Sousse en Tunisie. Et nous nous entretenons en marge du symposium Match 2021. Match en abrégé, c'est l'abrégé du Malaysia and Tunisia Cultural Heritage 2021, un symposium qui est le premier de son genre. ma toute première question. Ce genre d'échange culturel, surtout sur le patrimoine, ça se fait normalement dans un cadre nord-sud. Rarement a-t-on vu un pays de la rive de la Méditerranée entrer dans une collaboration scientifique, culturelle avec un pays asiatique. En quelque sorte, une première mondiale.
Cette coopération, elle reste limitée dans le cadre du secteur de l'éducation, notamment en Tunisie. Étant académique, moi-même, chercheur qui a vécu en Australie pendant plusieurs années, j'ai côtoyé plusieurs collègues qui viennent de la Malaisie, l'Indonésie, etc. Et j'ai bien noté qu'il n'y a pas vraiment de connexion, il n'y a pas de pont entre les deux rives sud-sud. Ce qui est important dans le cadre des universités, des échanges universitaires, etc. Donc, cette collaboration entre chercheurs, enseignants et étudiants organisée dans le cadre d'une école d'été Summer School pour les écoles d'architecture tunisienne et nous, Polytech SUS, et l'université malaisienne de renommée IUM, donc l'université islamique internationale de la Malaisie, IUM, créée pendant les années 80. Mmh. Cette école d'été aussi s'inscrit dans le cadre des projets du Network Engage, qui est un réseau qui travaille sur la promotion de l'héritage marginalisé dans différents pays, qui travaille sur le networking, sur les réseaux entre plusieurs pays dans le cadre de l'apprentissage ou bien collaboration sur ce thème, sur le thème de l'héritage. Du côté de la Malaisie, ce projet s'inscrit dans le cadre d'un cours intitulé Landscape Heritage and Cultural Studies. C'est un cours de troisième année à l'université IUM. On a essayé de créer cette collaboration, cette école d'été. En fait, il y a deux phases en ce qui concerne ce projet. Donc, le déroulement se déroule en deux phases principalement. La première, c'est la phase du 2 août jusqu'au 9 septembre. Donc, durant cette phase, chaque équipe d'étudiants a été appelée à travailler sur un site correspondant. Ce qui est intéressant, c'est que on a fait de sorte que les étudiants tunisiens sélectionnés après un interview travaillent sur des sites malaisiens, à savoir Johor Bahru, à savoir Malacca, à savoir Georgetown à Penang, et vice-versa. Donc, les étudiants malaisiens ont travaillé sur trois sites classifiés par l'UNESCO, donc à savoir Médina Tunis, Médina de Sousse et Médina de Kairouan en Tunisie. Au cours de la première phase, il y avait des conférences hebdomadaires programmées durant cette période, différentes séances de correction. On a demandé aux étudiants d'être créatifs, de créer des plateformes, de créer des analyses approfondies de l'architecture, de l'héritage de ces villes-là, des visites virtuelles à travers des 3D. Demain, le site où la présentation aux étudiants sera prête. Et la deuxième phase, brièvement, qui se déroule du 10 au 12 septembre, là on est au premier jour, donc cette phase constitue l'aboutissement de la première phase, se déroule sous forme d'un symposium virtuel qu'on vient de commencer. Il y a plusieurs conférences, plusieurs programmes, expositions virtuelles. Aujourd'hui, on a eu plusieurs conférenciers de la Malaisie, la Grande-Bretagne. Demain, il y aura les étudiants, la journée pour les étudiants. Et dernier jour, il y aura d'autres conférenciers qui vont présenter sur la notion de l'héritage.
Normalement, un événement pareil, on se serait attendu à des échanges, des voyages, des étudiants ou même des enseignants d'une ville à l'autre, parce que bon, il s'agit quand même d'apprécier l'architecture, l'héritage culturel visuellement, concrètement, physiquement et le voir. Mais cette fois-ci, ça se passe virtuellement. Je vois des avantages, mais aussi des gros inconvénients.
Tout à fait. Vu le contexte dans lequel on vit depuis l'année dernière, la pandémie du COVID-19, vu qu'il y a beaucoup de restrictions en Malaisie, en Tunisie, partout pour voyager, on a décidé que la meilleure façon d'organiser ce séminaire-là, ce workshop, sera une école d'été virtuelle. Et ça peut se passer dans les... En temps normal aussi, en temps normal, ce serait intéressant vu qu'il y a beaucoup de limites pour voyager et tout. pour les étudiants, pour des fois pour les enseignants, etc. Donc les avantages, c'est que ça a créé plusieurs opportunités pour résoudre les problèmes technologiques, pour être plus créatif, pour créer des plateformes virtuelles, notamment le site web, les pages virtuelles, etc., étaient créées principalement par les étudiants, entièrement par les étudiants, en fait, de A jusqu'à Z. Donc, il y a cette énergie qui s'est, il y a cette énergie de, pour l'échange, il y a cette énergie pour partager le savoir, il y a cette énergie pour partager l'information. Donc, on a cherché de l'information par rapport à ces sites historiques, les plans, coupes, façades, etc., les détails de ces sites historiques en Tunisie, en Malaisie. Donc, il y avait cette cette énergie de rive. La limite, comme vous l'avez mentionné, c'est le fait qu'on peut pas voyager pour apprécier les détails, pour apprécier la vie de des communautés qui vivent à travers cet héritage-là, qui peuvent nous donner leur perspective, leur histoire, raconter leur histoire, etc., par rapport à l'héritage, l'héritage matériel et immatériel, pas uniquement les bâtiments, mais aussi tout héritage immatériel, la musique, le chant, gastronomie, etc. Donc,
parce que quand je vois ces sites historiques, ce n'est pas seulement pour l'aspect visuel, la culture, l'histoire. Et on se serait attendu à ce qu'il y ait aussi un aspect de favoriser les échanges touristiques entre les deux pays. Est-ce que c'est un des objectifs aussi de ce symposium ou c'est quelque chose qui vient de ma tête un peu de layman, comme on dit en anglais?
Oui, bien sûr, cet événement vise bien sûr à renouer, à établir des relations et des échanges que ce soit sur le plan académique, sur le plan culturel et bien sûr sur le plan touristique, pour ainsi faire des échanges entre les deux pays et puis les deux continents entre l'Asie et l'Afrique, entre l'Asie et le bassin méditerranéen en général. Finalement, le but touristique y est toujours.
Et ça, c'est un but qui pourrait aussi générer d'autres approches qui pourraient bénéficier de deux côtés à des communautés, donc que ce soit malaisien et tunisien, je suppose.
Ça paraît finalement que c'est juste un petit projet qui a juste des petites répercussions, mais réellement, comme étant un projet qui vise beaucoup d'aspects en même temps, c'est un grand projet qui essaie de toucher à plusieurs aspects en même temps.
Et ces sites sont-ils tous protégés dans le cadre du patrimoine international ou c'est des sites qui sont tout simplement sélectionnés pour leur aspect, leur richesse que vous connaissez en tant qu'expert?
Alors, en ce qui concerne les sites tunisiens, si je me permets, la Médina de Tunis, Kairouan et Sousse sont des sites protégés par l'UNESCO depuis les années 70. Les sites malaisiens aussi, en ce qui concerne Malacca et l'île de Penang, Georgetown, sont des sites protégés. Johor Bahru, c'est un site qui est à la frontière avec Singapour. C'est un site qui a beaucoup d'emblèmes, beaucoup d'emblèmes historiques, beaucoup d'emblèmes patrimoniaux, etc.
Et de potentiel aussi.
Voilà, et on essaie de faire un peu de focus sur les communautés qui ont créé ces sites-là, les communautés qui ont interagi avec ces sites-là. Par exemple, en Malaisie, on voit la culture Pernakan culture qui vient du sud de la Chine. Donc, c'est cette culture-là a fusionné avec la culture malaise, la culture malaise en Malaisie, a créé ce qu'on appelle Pernakan culture et a eu beaucoup d'influence sur les tissus, sur l'architecture, sur les shop houses qu'on voit à Malacca, qu'on voit à Penang, etc. Donc, c'est un tout, en fait.
J'étais à Kuala Lumpur, je vois l'invasion des grandes tours et les tours Petronas, ça c'est le symbole que l'on voit, mais le touriste moyen comme moi ne voit pas tous ces autres sites. En fait, il faut vraiment aller, creuser profondément pour...
Non, c'est intéressant, j'ai la même vision en visitant Kuala Lumpur notamment, ou bien Dubaï par exemple. majorité qui visitent Dubaï, ils vont à GLT Towers, etc. Mais ils vont pas à côté de la rivière de Dubaï, l'ancienne ville, la petite ancienne ville de Dubaï, là où il y a les musées, là où il y a les habitations traditionnelles, etc. Donc, la ville du 21e siècle, il y a une dominance de cette culture-là, de mondialisation, des tours et tout ça.
SBS en français, c'est terminé pour aujourd'hui. On se quitte avec Dalida l'Éternelle et ce morceau Salma ya Salama. Nous, on se retrouve samedi pour une nouvelle émission en direct à 13h. Et d'ici là, je vous rappelle que vous pouvez continuer à nous écouter en podcast en vous abonnant à notre chaîne SBS French sur votre plateforme de streaming audio préférée. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt.
Il reprend sa course vers une autre source. Il finira par trouver le puits de la liberté. Salma ya Salama, je te salue ya Salama.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.